Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour une nouvelle émission Éclairage sur la relance ou les équations économiques et sociales de rentrée. Une occasion nouvelle de recevoir Nicolas Bouzou. Nicolas Bouzou, bonjour.
Bonjour Jean-Louis.
Heureux de vous retrouver donc sur notre antenne. Nous allons donc parler de l'actualité économique et tout particulièrement de ce néologisme qui a été donc avancé par Christine Lagarde, mais qui en fait a le mérite, en se articulant à la fois à la relance et à la rigueur, de poser la problématique de la politique économique et sociale qui se présente à nos gouvernants. Autrement dit, il s'agit de résoudre la quadrature du cercle. Alors, nous allons voir passer en revue les différents domaines macroéconomiques et l'actualité économique elle-même, et notamment française, pour voir quelles sont les pistes. D'abord, quel est votre diagnostic, et ensuite, quelles sont les pistes sur lesquelles il va falloir travailler. Comment réussir ce réglage très fin du pilotage de la chose publique à travers donc un triptyque qui repose à la fois sur l'économie, sur la finance et le social? Comment faire pour enclencher une nouvelle spirale vertueuse qui ne tourne pas à l'envers, car chacune des manettes en fait a une double action, à la fois de relance et à la fois de frein. Alors commençons peut-être par le point par où tout commence, à savoir les perspectives de croissance. Alors, vous qui êtes un fin observateur de notre pays et de l'économie internationale, comment voyez-vous les perspectives de croissance et est-ce que vous y retrouvez entre toutes les prévisions diverses et variées?
Je dirais que depuis le début de l'année, en réalité, on a une croissance sans doute un peu plus forte que ce qu'on attendait. L'idée sous-jacente au diagnostic que l'on pouvait faire il y a encore un an était de dire on a connu une crise qui a été à la fois une crise financière, puis une crise bancaire, puis une récession, et donc le système productif va en sortir très abîmé. Ce que les économistes appellent la croissance potentielle va être affaiblie. Alors ça, c'est sans doute vrai dans un certain nombre de pays, c'est vrai en France, c'est vrai dans les pays européens, c'est vrai aussi dans une certaine mesure aux États-Unis. On y reviendra tout à l'heure. La croissance américaine a été plutôt forte au premier trimestre, mais sans doute en raison de facteurs qu'on retrouvera pas nécessairement sur l'ensemble de l'année. Mais le point vraiment le plus important, et qui est un point d'optimisme, parce qu'on parle souvent des difficultés de l'économie mondiale, et on a raison, il y en a beaucoup, mais il se passe quand même quelque chose d'extraordinaire en ce moment, c'est la croissance des pays émergents. Ça, je crois qu'en France, on ne le dit pas assez, aujourd'hui, il y a un découplage de l'économie mondiale. C'est-à-dire que très clairement, on a une croissance dans les pays émergents, et quand je parle des pays émergents, je ne parle pas seulement de la Chine, hein. L'Inde aujourd'hui est quasiment à 10% de croissance, le Brésil, ce qui est très nouveau. Le Brésil est quasiment à 10% de croissance. Les pays du Maghreb sont entre 4 et 6%. Donc, on n'est pas sur des chiffres à l'asiatique, mais enfin, on est sur des chiffres qui sont relativement élevés. Et même dans certains pays d'Afrique subsaharienne, je pense à un pays comme le Mozambique ou dans une moindre mesure comme le Sénégal, on a des choses aujourd'hui qui sont tout à fait intéressantes. Donc, on a une croissance des pays émergents qui ne dépend plus seulement de leurs exportations, mais aussi du dynamisme de leur marché intérieur. Et ça, c'est vraiment un atout pour l'économie mondiale. Et à côté de ça, vous avez des pays développés qui ont eu de la croissance au premier trimestre, mais essentiellement pour deux raisons. D'une part, parce que vous avez des phénomènes, alors un peu techniques, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais de reconstitution des stocks. Hein. Les entreprises ont beaucoup fabriqué de produits pour les mettre dans les entrepôts. Après, est-ce qu'ils vont se vendre? Ça, c'est une autre histoire. Et puis surtout, et là, ça va nous amener à une préoccupation majeure aujourd'hui, qui est celle de la dette publique, surtout parce qu'il y a eu énormément de plans de relance l'année dernière, et ces plans de relance continuent malgré tout encore d'avoir un effet positif sur l'économie. Alors ça, typiquement, ça ne va pas durer. Mais on a eu donc plutôt sur le premier trimestre quelque chose d'acceptable dans les pays développés. Je pense que ce sera un peu plus compliqué à partir de maintenant. Et en revanche, une croissance très forte et durable dans les pays émergents.
Alors, ça, c'est la vision générale. Avant d'en venir donc aux deux domaines qui sont directement liés à la croissance, comme vous le disiez fort justement, la dette publique et les déficits budgétaires et l'emploi, hein, puisque ce sont les deux points qui sont directement liés. Peut-être un mot sur, on va dire, l'Europe, puisqu'en fait, vous parlez de découplage tout à l'heure au niveau international entre les pays émergents et ceux qui sont émergés, si je puis dire. Et donc, l'Europe a aussi ce découplage.
Oui, absolument. Alors, si on prend la zone euro comme un tout, Bon, on pourra parler du Royaume-Uni après, mais pour l'instant, limitons-nous à la zone euro. Si on regarde la zone euro comme un tout, on voit qu'on a des chiffres qui sont plutôt inférieurs à ce qu'on peut avoir, par exemple, aux États-Unis. Mais il y a la zone euro en général, et puis il y a la zone euro dans le détail. Et si on regarde la zone euro dans le détail, évidemment, ce qui frappe, c'est la différence de croissance entre la France et l'Allemagne. Et je crois que là, c'est quand même très intéressant. Et finalement, on a l'impression que c'est comme si la crise n'était pas passée par là. Moi, quand j'ai eu à commenter les derniers chiffres de la croissance économique en France, j'ai eu l'impression d'être revenu 3 ou 4 ans en arrière. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'en France, on a une consommation qui tient à peu près la route, qui reste à peu près dynamique, mais qui est aussi sous perfusion publique, hein, donc une consommation qui vient gonfler les déficits publics, donc ça, ce n'est pas durable. Et en revanche, très clairement, on voit qu'on a du mal à s'accrocher à l'économie mondiale, puisqu'on a un déficit commercial qui est toujours important, c'est-à-dire que notre demande intérieure est de plus en plus satisfaite par des importations. Voilà, je le dis rapidement, mais le raisonnement à retenir est celui-ci. En Allemagne, c'est très différent. Alors, on a eu une croissance au premier semestre extrêmement forte en Allemagne, ça ne va pas perdurer avec la même ampleur, mais il n'empêche que l'Allemagne, elle, s'est branchée sur les pays émergents. Et ça, quand on réfléchit à la fois en matière de politique économique, mais aussi pour les auditeurs qui nous écoutent et qui sont des dirigeants d'entreprise, par exemple, je crois qu'aujourd'hui, un des grands défis du monde développé, c'est essayer de profiter de cette croissance des pays émergents, essayer de se brancher sur la dynamique des pays émergents. Et ça, les entreprises allemandes y arrivent plutôt bien. Nous, clairement, en France, on est très en retard sur ce sujet.
Et cette dynamique, on va dire, asiatique et particulièrement chinoise, vous, pour l'instant, elle ne vous inquiète pas trop? Alors, vous pensez que la Chine est en train de revoir son modèle?
Il y aura forcément une crise en Chine. Ça, c'est absolument certain. Et vous n'avez pas d'exemple dans l'histoire du développement économique d'un pays qui se soit développé sans, à un moment ou à un autre, connaître une crise.
Et aussi, aussi longtemps et aussi fortement.
Exactement. Enfin, ouais. Et même les pays du sud-est asiatique, je pense à l'Indonésie, à la Malaisie, la Thaïlande, les Philippines, ont connu une crise très forte à la fin des années 90. Ça n'a pas remis en cause leur trajectoire de croissance sur le long terme, mais ils ont connu une crise. Donc la Chine connaîtra une crise, l'Inde connaîtra une crise, le Brésil, la Pologne, etc. Il n'empêche, moi je crois que ces pays sont en forte croissance parce qu'ils ont adopté une bonne politique macroéconomique depuis le début des années 90, une politique macroéconomique à la fois de stabilisation, c'est-à-dire de lutte contre l'inflation, contre les déficits budgétaires, etc., mais aussi une politique performante d'attraction des grandes entreprises occidentales. Ce qu'on appelle d'une certaine façon, nous, les délocalisations, hein, ce qui prend cette réalité-là chez nous. Mais pour eux, en tout cas, ça a été quelque chose de positif. Et je crois que ça, ça va encore payer pendant quelques années. Donc, il faut distinguer le fait que, en effet, tout processus de croissance fort suggère des déséquilibres qui se résorbent à un moment ou à un autre. Donc ça, c'est la crise conjoncturelle. Mais sur le long terme, je peux me tromper, bien entendu, mais fondamentalement, je ne suis pas du tout inquiet pour ces pays. Et donc, je pense que nous, de l'autre côté, on a intérêt à en tirer parti. Prenez, vous parliez, Jean-Louis, de la Chine à juste titre. Moi, ce qui me fascine, c'est de voir aujourd'hui le fait que la Chine elle-même commence à se brancher sur d'autres pays émergents. Regardez ce qui se passe en Afrique subsaharienne. Les pays d'Afrique subsaharienne, je pense au Sénégal par exemple, ce sont des pays qui nous ont attendus. On n'y est pas allé, mais ils nous ont attendus parce qu'on est francophone, parce qu'on les connaît bien, parce qu'on a eu une immigration sénégalaise assez forte en France, et donc ce sont des gens qu'on connaît bien. Donc je dirais qu'on était fait pour s'entendre économiquement. On n'y est pas allé. Du coup, les Chinois y vont.
Donc la Chine-Afrique remplace la France-Afrique.
Je pense que c'est une... Absolument. Oui, tout à fait. Je pense que c'est une vraie idée. Je pense que c'est honnêtement un peu dommage.
Ouais. Alors donc, une croissance européenne qui est tirée par les pays émergents, directement pour l'Allemagne, indirectement sans doute pour la France. Tout ceci donc nous renvoie à la première problématique qui est celle de la dette et des déficits budgétaires. Alors, est-ce que cette croissance plus ou moins forte sera susceptible de faciliter les efforts qui devront être entrepris? En tout cas, il semble, notamment en France, que notre pays souffre d'abord de son excès de dépenses. Alors, comment traiter à la fois dette et dépenses sans jouer sur l'autre curseur qui est celui des recettes?
Alors, c'est évidemment, vous parliez d'équation dans votre introduction, Jean-Louis, c'est évidemment l'équation qui est la plus difficile à résoudre. Cela dit, je crois qu'elle admet une solution. C'est-à-dire que je crois qu'il est possible, dans une certaine mesure, de concilier rigueur et croissance. De toute façon, la question du curseur ne se pose pas véritablement dans la mesure où on n'a pas le choix. On est obligé de faire de la rigueur. Si on entend par rigueur réduction des déficits publics, il s'avère que nos créanciers, on dit toujours les marchés, c'est abstrait, les marchés, ce sont nos créanciers, ce sont les gens qui nous prêtent de l'argent depuis 1974, dans le cas de la France, dernière année où le budget de l'État a été voté en équilibre.
Juste une petite parenthèse pour rappeler qu'en 2011, la France sera le deuxième emprunteur sur les marchés, voilà, derrière les États-Unis, ce qui n'est pas rien.
Bien sûr, et donc ce qui signifie que nous avons une dette et donc des créanciers qui sont de plus en plus nombreux et qui sont de plus en plus étrangers. L'agence France Trésor a publié un rapport qui a fait l'effet d'une bombe cette année qui montre que 70% des créanciers de la France sont étrangers. Donc c'est quand même un vrai sujet de réflexion. Donc la rigueur, au sens de la réduction des déficits publics, on n'a pas le choix. Donc la question c'est, cette rigueur, comment on la fait et est-ce qu'on peut la réconcilier avec la croissance. Je crois que oui, il y a une rigueur qui est bête et méchante et qui casse la croissance, et il y a une rigueur qui est astucieuse. La rigueur qui est bête et méchante, c'est celle qui consiste à augmenter massivement les impôts. Il est clair que si demain on augmente l'impôt sur les bénéfices d'entreprise, si on supprime les allègements de cotisations sociales et si on augmente bêtement la TVA de 2 points, je peux vous dire, on aura une récession. Voilà. Et donc, in fine, on n'aura pas de réduction des déficits publics, parce que les recettes, comme vous l'avez dit fort justement, elles viennent de la croissance. En revanche, si on essaie de travailler plutôt sur la dépense, parce que augmenter les recettes publiques en France me paraît compliqué, on pourrait y revenir, mais les impôts sont déjà très élevés, et en réalité, il n'y a plus qu'un seul impôt sur lequel on aurait un peu de marge de manœuvre, c'est la TVA, mais pour des raisons politiques, c'est très compliqué à augmenter. Donc, notre marge de manœuvre, elle se situe beaucoup plus sur la dépense. Vous regardez l'évolution de la dépense ces 20 dernières années, c'est la dépense sociale qui a augmenté. Ce n'est pas celle des collectivités locales, ce n'est même pas celle de l'État central, c'est la maladie et la retraite, pour le dire vite. Alors, il ne vous aura pas échappé que sur le sujet de la retraite, on est en plein débat et qu'on essaie de traiter ce sujet en ce moment. Mais je voudrais attirer l'attention des auditeurs de Canal Academy sur le fait que quand on parle de réduction de la dette publique, avec les retraites, la réforme des retraites, on est au cœur de cet enjeu. Quand on parle des niches fiscales, oui, sans doute, on peut supprimer un certain nombre de niches fiscales, mais on va récupérer quelques milliards d'euros. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais on n'est pas dans le cœur du sujet. Avec la retraite, là, ce dont on parle, c'est de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et quand on demande aux gens de partir peut-être un petit peu plus tard en retraite, alors pas de partir 5 ans ou 10 ans plus tard de ce qui se faisait il y a quelques années, mais de partir 2 ou 3 ans, on ne pénalise pas la croissance économique, hein, bien évidemment, puisqu'on demande à des gens de travailler plus longtemps, mais ça n'a pas d'effet récessif. Et en revanche, on fait des économies substantielles. Vous l'aurez compris, et n'y voyez vraiment pas du tout une prise de position politique, mais il se trouve que je suis plutôt favorable à la réforme que présente le gouvernement, qui en tout cas ne règle pas tout le problème des retraites, ça c'est clair, mais qui en règle une partie et donc qui nous permet quand même d'avancer sur la voie de la réduction des déficits publics.
Alors là, Nicolas Bouzou, vous donnez l'avis de l'économiste que vous êtes. Je rappelle que vous présidez à Asterès, qui est un cabinet d'études économiques bien connu, extrêmement performant. Je rappelle aussi que vous êtes un auteur brillant, que vous allez sortir dans le cadre du Cercle Turgot prochainement un ouvrage qui précisément parlera de la dette et des déficits. Donc, vous êtes en plein dans le sujet. Mais juste une dernière parenthèse donc, sur cette question des retraites, enfin, on va dire presque du social au sens général du terme. En définitive, vous pensez que ces dispositions, enfin le dispositif tel qu'on le voit se dessiner, sans préjuger de ce qu'il sera in fine, mais tel qu'on le voit se dessiner, est susceptible de régler le problème des retraites pour un temps suffisant, pour une intelligence suffisante ?
Ne prenez pas ma réponse par une pirouette, mais il s'avère que c'est difficile à dire dans la mesure où ça dépend de la croissance économique, de l'évolution du marché du travail, etc. Fondamentalement, le problème de la retraite est quand même un problème démographique. Tout simplement le fait que le nombre d'actifs rapportés au nombre du retraité diminue. Vraiment pour des raisons purement démographiques. Donc il faut essayer de freiner cette tendance, idéalement par des moyens qui sont également démographiques, c'est-à-dire demander aux gens de cotiser un peu plus longtemps. Bon, les projections du gouvernement montrent que la réforme permettrait de régler le problème pour une petite dizaine d'années. Ce sera sans doute moins parce que les prévisions de croissance qui figurent dans le projet du gouvernement sont sans doute un peu trop optimistes, mais je dirais que c'est la loi du genre. Donc, ce n'est pas une réforme ferme et définitive, c'est un point d'étape. En France, on a toujours procédé comme ça, notamment sur la question des retraites. On parle de la réforme des retraites, mais en réalité, la réforme des retraites, elle a commencé en 1993.
Oui, elle est permanente.
Sous l'égide d'Édouard Balladur, exactement, et elle ne s'est jamais véritablement arrêtée. On a eu une réforme Fillon en 2003, et là, on est en train de continuer. Donc, on a décidé en France de ne pas réformer les retraites, sans doute parce qu'on veut conserver un système de retraite par répartition. Après tout, pourquoi pas ? C'est un choix qu'on peut comprendre. D'autres pays ont fait un choix différent en faisant monter un peu plus la capitalisation. Mais nous, on n'a pas fait ça, pourquoi pas? Mais ça suggère des points d'étape réguliers à minima tous les 10 ans.
Donc, dette et déficit avec un effort particulier à porter sur la dépense, ce qui n'exclut pas sans doute de porter aussi sur, on va dire, les recettes.
J'en ai peur.
J'en ai peur, on a tous peur. Enfin, on nous dit que ça sera peut-être qu'en 2013, donc respirons encore pendant 2 ans. Par contre, ce que vous soulignez donc, en tant qu'économiste, c'est cette corrélation très forte avec les comptes sociaux et tout particulièrement, bien évidemment, avec ceux de la retraite, hein, pour faire simple. Voilà. Alors, ça, c'est un point. Le deuxième point de préoccupation qui, en fait, touche tous les grands pays développés, l'Amérique comme l'Europe, c'est bien entendu l'emploi. Et alors, en France, avec une difficulté supplémentaire qui est cette espèce de gangrène, de cancer qui touche tout particulièrement l'emploi des jeunes. Enfin, je n'ai plus les chiffres précisément en tête, mais enfin, je crois que c'est près de 25%, 25% des jeunes qui sont en recherche d'emploi, y compris des jeunes diplômés et d'un certain niveau. Alors, quel regard portez-vous sur ce sujet? Est-ce que, d'une façon, on va dire, comment dirais-je, irrémédiable, la croissance française, le modèle français générera du sous-emploi chez les jeunes? Qu'est-ce qui est grippé? Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est votre regard? J'imagine qu'il y a un lien avec l'université, par exemple.
Oui, mais avec la formation en règle générale.
Avec la formation en règle générale.
Vous avez deux types de chômage, en réalité. Vous avez ce que les économistes appellent un chômage keynésien, qui est fonction de la croissance économique. Donc, il est clair qu'aux États-Unis ou dans les pays scandinaves, l'essentiel du chômage est un chômage keynésien. On a eu une chute extrêmement forte du PIB. On a une reprise qui est relativement modérée et qui n'est pas suffisante pour offrir aux entreprises des débouchés qui leur permettraient d'embaucher massivement et de résorber le chômage. Donc ça, je dirais que ça se règle avec la croissance économique. C'est pour ça que dans les pays scandinaves, si vous regardez un pays comme le Danemark, par exemple, le taux de chômage est élevé, mais il est sans doute amené à régresser avec le retour de la croissance. Et vous avez un deuxième type de chômage qui est un peu plus compliqué, qui est le chômage structurel. Et ça, typiquement en France, ce chômage, il est lié à l'inadéquation de l'offre et de la demande de travail. Je vais le dire extrêmement brutalement, mais l'école, sans doute, ne forme pas les bonnes personnes, ne donne pas les bonnes formations, eu égard à la demande. Pourtant, ce ne serait pas très compliqué en théorie, parce que les entreprises aujourd'hui n'ont pas nécessairement besoin de savoir technique, mais elles ont besoin d'un savoir général extrêmement performant. Là encore, je vais dire les choses extrêmement clairement et brutalement, ça veut dire que tous les Français doivent savoir lire, écrire, compter et disposer d'un fort esprit de synthèse. Pas besoin d'avoir un diplôme d'ingénieur atomiste pour trouver sa place dans le monde de l'entreprise aujourd'hui. Mais en revanche, il faut disposer de ses compétences. Et la grande difficulté, et le problème sans doute numéro un de la société française, c'est le fait que l'école, mais pas seulement l'école, en réalité notre système de formation, qui va de la maternelle à la formation continue, n'est pas en capacité aujourd'hui de donner ses compétences. Et ça, c'est absolument dramatique. L'Institut Montaigne a publié il y a quelques semaines, quelques mois, une étude qui a fait grand bruit, qui rappelle que 40% des élèves de CM2 en France ont des difficultés de lecture. Notre société ne peut pas accepter ça, parce que ces gens-là, et je crois qu'il faut vraiment que nos auditeurs en aient conscience, ces élèves-là qui sont à la fois nos enfants, mais aussi ceux qui vont travailler dans nos entreprises dans quelques années, n'ont pas leur place dans une économie moderne. Dans une économie moderne, pas forcément besoin d'être polytechnicien, mais il faut disposer d'un fort esprit de synthèse, il faut avoir une forte capacité d'adaptation, il faut savoir correctement s'exprimer. Et évidemment, ça me paraît évident, mais ne pas avoir de difficultés de lecture. Or, aujourd'hui, l'école française ne permet pas ça. Et ça, c'est absolument dramatique. Et on n'arrivera pas ni à régler le problème du chômage, mais ni même à réduire les inégalités de salaires, qui sont de plus en plus importantes en France, si on n'a pas ça en tête et si on n'est pas capable de résoudre ce problème.
Alors, dette, déficit, emploi, problème des jeunes. Qu'est-ce que, en sens inverse, vous voyez comme, on va dire, coin de ciel bleu dans cette rentrée économique et sociale? J'emploie ce mot avec prudence parce qu'immédiatement, ça nous renvoie à des événements qui se sont produits, qui vont se produire. Est-ce qu'il y a des coins de ciel bleu qui soient susceptibles d'éviter cette désespérance sociale, en quelque sorte?
Il y a énormément de coins de ciel bleu. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on est dans une situation comme les années 30. Je crois qu'il y a deux différences fondamentales par rapport aux années 30. Les années 30, c'est vraiment une période bouchée. Non, aujourd'hui, vous avez deux différences. D'une part, j'en ai déjà parlé, je ne reviens pas dessus, mais la croissance des pays émergents. Mais d'autre part, le fait qu'on est au début de la troisième grande révolution industrielle. On a eu deux grandes révolutions industrielles, qui sont bien évidemment celle de la machine à vapeur au 19e siècle et celle de l'électricité. Je brosse à grands traits, mais à la belle époque. Aujourd'hui, on est au début d'une nouvelle révolution industrielle qui est liée à la fois aux innovations dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais aussi dans le domaine du vivant et de l'énergie. Donc, vous avez des opportunités économiques qui sont tout à fait exceptionnelles et ce sont souvent les petites entités, les petites organisations, les petites entreprises qui sont le mieux à même d'en profiter parce que ce sont des périodes dans lesquelles les cartes sont rebattues. Donc ça, ce sont des opportunités qui sont tout à fait exceptionnelles. Et j'aurais envie de dire, alors vous allez vraiment dire que je ne m'engage pas beaucoup, mais la formule que j'ai coutume de donner la suivante. Quand la crise sera passée, je crois que nous aurons une très forte croissance. Alors évidemment, quand on dit ça, on n'a pas dit grand-chose, mais nous avons des problèmes aujourd'hui, des problèmes de finances publiques, des problèmes de formation, mais que nous pouvons résoudre. Ce sont des problèmes dont nous disposons intellectuellement de toutes les solutions. Il ne nous reste plus qu'à les mettre en œuvre. Bien évidemment, c'est compliqué, il faut qu'on réfléchisse sur la méthode. Mais on peut résoudre tous ces problèmes. Si on est capable de résoudre tous ces problèmes, on a devant nous une période de croissance et d'expansion qui peut être l'une des plus importantes que l'humanité n'ait jamais connue. Les révolutions industrielles comme celles que l'on connaît aujourd'hui, ce sont des ruptures en matière économique. Avant la révolution industrielle de la machine à vapeur, on n'avait pas de phénomène de croissance économique. Aujourd'hui, on est au début d'une révolution industrielle du même type. Mais ça veut dire qu'il faut régler nos problèmes de finances publiques, ça veut dire qu'il faut remettre à niveau notre système éducatif. Tout ça n'est pas facile, mais je le répète, on dispose de toutes les solutions intellectuelles pour le faire.
Par contre, on a un frein qui est bien connu, c'est celle de la résistance au changement, qui est une, on va dire, un déterminant de la culture, on va dire, du corps social national. Quels sont pour vous les principaux facteurs de blocage? C'est un héritage culturel. Quels sont, selon vous, les freins, les facteurs de blocage principaux sur lesquels il faut agir? Alors, vous l'avez dit, il y a peut-être l'appareil de formation. Mais individuellement, prenons le cas des niches fiscales, puisqu'on en parle, du rabotage. On a dit, tout le monde est d'accord pour dire qu'effectivement, il y a quelque chose à faire là-dedans. Mais dès lors qu'on est concerné individuellement, on n'a plus envie. Et comme le disait, je crois, un banquier, dans chaque niche fiscale, il y a un chien qui est prêt à mordre. Et donc, ce qui est vrai pour les niches fiscales, est-ce que ce n'est pas un peu vrai sur tous les autres grands dossiers, ce particularisme un petit peu français, on va dire, de résister à l'évidence?
Moi, je crois qu'on a deux problèmes en France. Alors, c'est un débat qui pourrait nous emmener très loin. Mais un premier élément de réponse, qui est corroboré par l'histoire finalement, est de dire que ça va encore trop bien en France pour que véritablement l'environnement soit un stimulus suffisant pour nous amener à changer. Les Britanniques ont changé à la fin des années 70, à partir du moment où la crise était devenue extrêmement grave. Les Grecs, bien évidemment, sont en train de changer. D'une certaine façon, les Espagnols aussi. En France, on a encore de la croissance économique, on a encore des gains de pouvoir d'achat, même si leur distribution est de plus en plus inégale.
Mais on a encore un triple A.
Et on a encore un triple A. Tout à fait raison, Jean-Louis. J'aurais sans doute dû commencer par ça, d'ailleurs. On a encore un triple A.
Le jour,
très bon exemple. Je ne sais pas, mais ce que je sais, est-ce que je crois même, c'est qu'on ne conservera pas toujours si on continue comme ça. Et d'ailleurs, quand on regarde la situation financière des pays qui ont un triple A, on voit que la France est finalement le moins bon des meilleurs élèves, en quelque sorte. Donc on est quand même dans une situation qui n'est pas complètement confortable. Donc la crise est un stimulus important pour le changement. Je crois qu'il y a un deuxième facteur, mais là, qui, m'est venu de ce que j'ai pu observer à l'étranger, c'est le fait que nous sommes un pays extrêmement centralisé, avec un Parlement qui est faible, et donc nous avons beaucoup, beaucoup de mal à discuter ensemble. Et ça, on le voit très clairement dans le cadre de la réforme des retraites. Alors, la réforme des retraites, évidemment, dans tous les pays du monde, c'est l'État qui décide de la réforme des retraites, mais dans beaucoup de pays du monde, vous avez un Parlement qui joue un rôle quand même plus important que le Parlement français, et surtout, dans beaucoup de pays dans le monde, vous avez des structures de décision politique qui sont beaucoup plus décentralisées. Et ça, c'est très important. Et moi, qui voyage beaucoup à la fois en France et à l'étranger, je vois bien que la France est globalement un pays un peu fatigué, c'est-à-dire que les gens n'ont plus beaucoup envie de se battre pour leur pays, mais en revanche, ils ont envie de se battre pour leur région, pour leur ville, pour leur département, pour leur territoire. Et je pense qu'il faut jouer là-dessus. Les Allemands le font très bien, par exemple. Les Espagnols aussi, dans une certaine façon.
Ils ont une culture de régionalisation.
Voilà, exactement. Alors, sans aller, bien évidemment, jusqu'à la régionalisation, il ne s'agit pas de faire ce que fait la Belgique aujourd'hui. Mais je crois vraiment que le fait que nous prenions toutes nos décisions, je caricature, mais à 65 millions, rend les choses extrêmement compliquées. Et là, je crois qu'on a une véritable réflexion à mener, y compris les économistes, pour savoir non pas quel type de politique économique on doit mener, mais déjà dans quel cadre on doit la mener pour que cette politique économique soit la plus efficace possible. Et je crois qu'aujourd'hui, elle est menée dans un cadre qui est trop centralisé.
Donc se mettre d'accord sur quelques grandes lignes de
progrès
consensuels.
Absolument.
Et donc en mettant les moyens de convergence et de communication.
Les questions de formation, typiquement, devraient bien davantage traiter au niveau local. Parce qu'entre la situation du marché du travail de Longwy et la situation du marché du travail de Toulouse, par exemple, évidemment, ça n'a absolument rien à voir.
Tout à fait. Alors, on va terminer ce vaste tour d'horizon par deux sujets sur lesquels on va aller peut-être un peu plus rapidement. Le grand sujet qui est incontournable, c'est la superpuissance hyper endettée américaine. C'est leur dette, mais c'est notre problème, comme disent les économistes. Comment voyez-vous donc les États-Unis ? Est-ce qu'ils commencent à être en début de sortie de crise ? C'est une autre culture, ça n'a rien à voir,
bien entendu.
Mais il reste, bien entendu, le premier moteur économique du monde. Même si la Chine a rattrapé et est devenue maintenant la deuxième puissance mondiale, on se rappelle que le PIB de la Chine est de l'ordre de 5 000, pour faire rond, hein, donc 5 000 milliards, alors que les Américains sont plutôt près des 15 000 milliards. C'est encore, il y a un écart fantastique. Donc
les Chinois sont un peu plus nombreux.
Les Chinois sont un peu plus nombreux. Mais en termes de moteur, de puissance de moteur par rapport au reste du monde, l'Amérique, il ne faut pas encore l'oublier totalement.
Non.
Alors, et cette superpuissance hyper endettée, quel rôle va-t-elle jouer en plus en moins pour nous, pour l'Europe, pour nous, etc. et pour le reste du monde ?
Pour comprendre l'économie américaine, et ce n'est pas une tarte à la crème ce que je vais dire, mais il faut bien comprendre que les Américains n'aiment pas le chômage et n'aiment pas la récession. Ils veulent de la croissance économique. Et pour faire de la croissance économique, ils utilisent tous les leviers, y compris les leviers les moins vertueux, c'est-à-dire typiquement une politique monétaire excessivement expansionniste pendant très longtemps. Et typiquement, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils avaient fait au début des années 2000 sous l'égide d'Alan Greenspan, quand Alan Greenspan était gouverneur de la Fed. C'est ce qu'ils font aujourd'hui sous l'égide de Ben Bernanke. Et une politique budgétaire qui, là encore, est très expansionniste. Et on le voit bien avec un président Obama qui songe encore à mettre en place des plans de relance. Tout ceci, comme vous l'avez rappelé, générant une dette publique américaine très importante. Moi, si vous voulez, je crois que ça aura une fin quand même. Là, je crois que les Américains sont en train d'aller au bout d'un système, celui d'une politique macroéconomique qui est toujours trop expansionniste. Et au bout d'un moment, même si c'est la principale économie du monde, ils seront rattrapés par la réalité. Vous ne pouvez pas faire croître votre endettement public de façon illimitée. Vous ne pouvez pas maintenir vos taux d'intérêt à court terme à 0% de façon illimitée, puisque vous créez l'équivalent d'un alcoolique à qui on donnerait sans cesse à boire davantage pour qu'il oublie son alcoolisme. Donc, ce ne sont pas, à mon avis, des solutions qui sont viables à long terme. Donc, je crois qu'on a un vrai sujet sur l'économie américaine. Alors, vous l'avez rappelé, hein, l'économie américaine aujourd'hui, ça représente 25% du PIB mondial, c'est un quart de l'économie mondiale. C'est très important, mais il ne faut pas non plus oublier que l'histoire économique, c'est aussi une histoire de déclin, de croissance, de modification d'hierarchie. Et au début du 19e siècle, les deux pays les plus avancés économiquement, c'était la Chine et l'Inde.
Tout à fait. Mais donc, probablement que l'Amérique sera conduite à faire des coupes sombres,
et
probablement en termes de gendarmes du monde. Et une Amérique endettée, alors c'est peut-être le point positif, sera sans doute un peu moins va-t-en-guerre. En tout cas, ceux qui voudront le faire seront pas pris au sérieux longtemps. Voilà, et donc le dernier point, quand on parle de l'Amérique, évidemment, ça nous renvoie à un sujet quelquefois tabou, qui est celui des banques. Alors les banques américaines, on sait ce qu'il en est, se sont redressées, se sont refaites une santé. Il en est de même des banques françaises qui sortent finalement progressivement de la crise et la plupart d'entre elles d'une façon extrêmement remarquable. Alors, derrière cette situation de sortie de crise des banques, il y a maintenant ce chapeau de la régulation et notamment récemment les dispositions qui viennent d'être prises en matière de contrôle, de matelas de sécurité, le fameux Bâle 3, à travers les fonds propres. Alors, deux questions sur ce sujet. Un, est-ce que c'est supportable, et notamment par les banques françaises ? Et deux, est-ce qu'il n'y a pas, en conséquence de ces dispositions, un risque d'encadrer la distribution du crédit, de freiner la distribution du crédit, et donc un effet pervers derrière ces mesures de régulation qui sont destinées à sécuriser, mais qui pourraient jouer contre la croissance ?
Alors, au risque de me fâcher avec certains de mes amis banquiers, je vous réponds clairement, je suis plutôt favorable à Bâle 3. Pourquoi ? Parce qu'on a sans doute besoin de régulation financière et de régulation bancaire, mais la régulation, par définition, elle est toujours en retard d'une guerre. Vous pouvez réglementer aujourd'hui la titrisation, mais à la limite, peu importe. La prochaine crise ne se jouera pas sur la titrisation. La banque et la finance sont des secteurs complètement dématérialisés, donc il est assez facile de contourner la réglementation. Je dirais que la seule barrière, finalement, c'est une barrière mentale, c'est l'imagination de ceux qui conçoivent les produits. Donc là, la régulation me paraît extrêmement compliquée à mettre en œuvre. Donc si on ne peut pas jouer sur la régulation, eh bien, il faut prendre le problème beaucoup plus en amont, en demandant aux banques d'être plus solvables. Tout simplement. Être plus solvable, ça veut dire leur demander d'avoir davantage de capitaux propres. Et ça, c'est l'agenda de Bâle 3. Alors, les banquiers ont bien entendu raison quand ils disent si on nous demande davantage de capitaux propres, ça veut dire qu'il nous en coûtera plus cher de nous financer. Et donc, il nous en coûtera plus cher de vous prêter à vous, entreprise, à vous, ménage. Et ce, d'autant plus que nous devrons mieux sélectionner nos risques. Et donc, eh bien, nous distribuerons sans doute moins de crédits. J'entends cet argument qui est formellement juste. Et les banquiers, je crois, ont été assez talentueux pour se faire entendre sur ce sujet par l'opinion publique ces dernières semaines. Cela dit, on sait bien aussi que les difficultés du système bancaire ont des effets systémiques sur le reste de l'économie. Donc on a tous intérêt à avoir un système bancaire qui soit extrêmement stable, d'autant plus que les États sont allés au pot pour aider les banques, même si les prêts ont été remboursés, même si l'État français a gagné de l'argent là-dessus. Bien évidemment, tout ceci est vrai, mais il n'empêche que les États ont quand même dû aller au pot, et pas seulement l'État français, hein, d'autres États bien plus pendant la crise. Je pense que c'était possible cette fois-ci. Je pense maintenant que les opinions publiques sont beaucoup moins prêtes en cas de prochaine crise à aider les banques de cette façon-là. Donc on a tous intérêt à ce que le système bancaire soit plus stable. Ça signifie leur demander davantage de fonds propres. Bien entendu, c'est coûteux, j'entends cet argument. Bien entendu, ça mobilise de l'épargne. Il va falloir que les banques fassent des augmentations de capital. Donc j'ai bien conscience de tout ça. Il me semble que le compromis qu'on a pu trouver à Bâle III entre des banques qui, bien évidemment, c'est leur rôle, finalement, voulaient tirer du côté d'une réglementation un peu plus souple, et les faucons de Bâle III qui, eux, étaient d'ardents partisans de normes en matière de fonds propres extrêmement strictes, je trouve honnêtement qu'on a trouvé un équilibre qui est recevable par toutes les parties.
Voilà, donc, et qui ne devrait pas à la fois être insupportable
pour les
banques et, et d'avoir trop de conséquences sur le plan économique. Maintenant, reste à savoir si les Européens ne seront pas les dindons de la farce et si la coopération internationale ira jusqu'au bout de sa logique.
C'est le vrai sujet.
En mettant tout le monde sur un pied d'égalité. On sent que les Anglo-Saxons et notamment les Américains parlent beaucoup, mais ils ne sont pas très en avance pour mettre tout ça en place, y compris Bâle II. Enfin...
J'aime beaucoup les Américains, mais de ce point de vue-là, je le dis brutalement, ils ont été irresponsables. Ils n'ont bien entendu jamais appliqué Bâle II. Ils ont poussé à faire Bâle III et rien ne nous dit aujourd'hui qu'ils appliqueront Bâle III. Et au contraire, ils sont plutôt en train de mettre en place une réglementation bancaire qu'ils ont négociée en interne, avec très peu de coopération internationale. Donc je pense que sur la coordination de la réglementation bancaire internationale. Là encore, nous avons d'immenses chantiers devant nous. Eh bien, la France va diriger le G20 l'année prochaine. Voilà un vrai sujet pour le G20.
Pour reprendre la main. Voilà, écoutez, Nicolas, nous avons fait, je pense, un tour d'horizon assez complet sur cette actualité qui est économique, financière et sociale. Une rentrée qui s'annonce probablement assez chaude. Mais ceci est un autre sujet. Nous aurons l'occasion d'en reparler ultérieurement. En tout cas, merci pour cet échange et vos éclairages. À très bientôt. C'était donc Nicolas Bouzou, président de Asterès, auteur économiste, qui va donc publier tout prochainement d'autres ouvrages que nous aurons l'occasion de commenter avec plaisir. À très bientôt. Merci à vous.